C'est l'heure de la marche de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Patrick Boyer.
Aujourd'hui, vagabonds et clochards.
Et oui, on était dans la douleur avec les publicités qu'on vient d'entendre il y a un instant. On va continuer.
Comme à chaque étape, vous serez emporté par le flot puissant de l'histoire.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Vagabond et clochard.
Une femme vient de mourir gelée. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, des pancartes s'accrochent sous une lumière, dans la nuit, où l'on lise, c'est simplement toi qui souffres, qui que tu sois, en mange, reprends espoir. Ici, on t'aime.
L'hiver 1954, les participants de l'insurrection de la bonté derrière l'abbé Pierre qu'on vient d'entendre imaginaient peut-être mener la der des der, la mobilisation finale contre la misère, celle-ci paraissant être appelée à reculer définitivement dans notre pays. On sait maintenant qu'il n'en est rien. En réalité, la France est-elle jamais descendue au-dessous du chiffre de 3 millions de pauvres? C'est à se demander si, en pesée globale, on n'aboutit pas toujours et quasi nécessairement à un pourcentage invariant, 10, voire davantage, dans la population. Évidemment, le seuil de pauvreté varie en fonction de la croissance des revenus, mais ce sont aussi les pauvres et leur représentation qui changent. Au XIXe siècle, prédominait l'image dangereuse du vagabond. Au milieu du XXe, se développa le cliché « bonhomme du clochard ». Aujourd'hui, les pauvres ne peuvent plus être cantonnés dans l'altérité, encore moins la monstruosité, puisque la moitié des Français imaginent qu'ils pourraient le devenir. André Guélin, bonjour.
Bonjour, monsieur Brun.
Ça n'est pas facile, monsieur Guélin, d'être historien de la pauvreté. Il est démuni, l'historien de la pauvreté. Les mots n'ont pas la précision souhaitable. Les pauvres laissent peu de traces. Je pensais, en lisant votre œuvre monumentale, une demi-douzaine d'ouvrages sous votre signature consacrés au sujet, une dizaine ou une douzaine avec des collègues, aux veillées qu'organise une association qui s'appelle « Aux captifs la libération ». Parce qu'il suffit de peu pour se retrouver à la fosse commune. Et cette association publie les noms des morts de la rue dans les journaux. C'est un petit peu la même chose que vous faites, un monument à la pauvreté.
Peut-être, mais je suis quand même historien. Et c'est évident que je pense que pour travailler sur un tel sujet, il faut avoir quelque part une empathie pour ces êtres qui souffrent, qui sont des gens ordinaires, mais qui souffrent parce qu'ils ont eu un aléa de l'existence qui les a fait basculer dans la rue pour la plupart. Mais en même temps, je crois que je suis historien et mon pari scientifique intellectuel, c'est de faire l'histoire d'hommes sans voix, d'hommes dont on ne sait rien, dont on ne savait presque rien. Et j'essaye à travers les traces qu'ils laissent, à travers les représentations qu'en ont les nantis, de faire sortir, de faire sourdre, tels qu'ils sont, ces hommes et ces femmes, faut-il rajouter, puisqu'il y a quelques femmes quand même dans la rue.
Alors, de ce monument, nous n'allons donner que deux aperçus. L'un concernera les vagabonds du XIXe siècle, l'autre les clochards du milieu du XXe siècle. Vous recourez souvent à la fiction. Et on n'hésite pas, la marche de l'histoire, à le faire. Bertrand Tavernier, par exemple, c'est un grand professeur d'histoire. Vous êtes d'accord, André Guélin?
Absolument d'accord.
Par exemple, quand il peint un personnage nommé Bouvier, nous sommes à la fin d'un siècle, le 19e, où le pauvre s'est incarné en vagabond. Bouvier s'incarne en Michel Galabru et il parcourt les campagnes.
J'ai que de la soupe et c'est de la soupe de pauvre.
Ah, c'est pas les riches qui donnent le plus. Voilà trois sous pour le lait, la soupe.
Vous êtes plus pauvre que moi. Vous le paierez en priant Dieu.
J'écris à ma fiancée chaque semaine.
Et où est-ce qu'elle vous répond puisque vous êtes sur les routes?
C'est vrai, elle ne me répond pas.
Louise, voici plus de 3 années déjà que je suis parti. Il y a 2 ans, avec une paire de galoches de 40 sous, j'ai été en Bretagne que j'ai toute vue. 5 départements. La Normandie, 5 départements. Grande et riche province, et du bon cidre, ainsi qu'en Bretagne. Là aussi, et dans le Maine, deux départements, les gens y sont vraiment religieux et humains. Ainsi que la Beauce et la Brie, où les gens sont si insolents envers les plus humbles qu'eux.
Un homme d'un certain âge, célibataire, c'est souvent ainsi qu'on voit, à juste raison, le vagabond. Il y a d'autres mots aussi qui sont utilisés, André Guélin.
Oui, on peut dire le trimardeur, on peut dire le cheminot. Le cheminot chemine sur les chemins. Dans le cas de ce personnage réel et de fiction, il voyage dans toute la France. Donc on peut dire tout à fait cheminot, trimardeur. Donc voilà quelques références qui désignent le vagabond.
Vous avez entendu, il se présente comme un homme avec toute son humanité, puisqu'il parle de sa fiancée. Oui. Et la femme qui lui donne un bout de soupe dit « Mais non, vous n'avez pas de fiancée, vous êtes tout le temps sur la route. »
Exactement, mais ça, si vous voulez, c'est un trait. C'est étonnant de voir que c'est chez Tavernier encore aujourd'hui qu'il montre un trait réel, qu'avait retracé également Jean Renoir, quand Boudu, sauvé des eaux, embrassait son chien. Et il disait, mais vous embrassez des chiens, vous? Donc, par conséquent, on essaye de reconstituer des personnages en monstres. Et donc, quelque part, c'est pas possible qu'il soit un homme ordinaire, qu'il ait des affections, qu'il ait des passions, qu'il marche normalement. Il doit être... Exactement, extraordinaire.
Alors que le vagabond, c'est un désaffilié. Au départ, ce n'est pas un errant né.
Voilà. Il y a quelques vagabonds qui vont vous dire, mais très rarissimes, qui vont vous dire qu'ils ont fait ça par goût, par choix. Mais la plupart, ce sont, comme dirait un médecin de la fin du 19e siècle, ce sont... Malheureusement, j'en pense avec prudence, et ça à prendre pour moi quand même, ce sont des déchets sociaux.
Alors le désaffilié, le déchet social, il doit être réprimé. Et on s'en préoccupe depuis le XVIIe siècle, création de l'hôpital général et grand refermement. Mais puisque nous parlons du XIXe, on s'en préoccupe très nettement dans le code pénal de 1810.
Voilà. Dans le code pénal napoléonien de 1810, on va établir... Non pas une présomption, la présomption d'innocence est un fondamental du droit français. Encore aujourd'hui, nous y croyons tous comme citoyens. Mais on va créer, spécialement pour les vagabonds, pour les errants dont on a peur, qui hantent les campagnes, on ne sait d'où ils viennent, on va créer cette présomption de culpabilité. C'est-à-dire qu'ils sont passibles de prison à partir du moment où ils sont détectés comme vagabonds, c'est-à-dire... Sans toit, sans argent, et gens sans aveu qui ne peuvent faire répondre d'eux.
Bouvier-Galabru, dont on va reparler, c'est un cas un peu particulier parce qu'il s'est logé deux balles dans la tête, alors il a le ciboulot un peu agité, et on le met en asile. Mais le plus souvent, aux vagabonds, est réservé le dépôt de mendicité.
Voilà, le dépôt de mendicité qui a été fondé en 1765, comme quoi, dès la fin de l'Ancien Régime, on se préoccupe déjà de réprimer ces catégories de personnes. 1756, c'est l'hôpital général. L'hôpital général a mal fonctionné. C'était pas un hôpital, hein. C'était l'hôpital général, ça voulait dire une sorte de prison pour les pauvres, qui fonctionne assez mal, et par conséquent, on préfère ces petites structures au niveau des intendances, au niveau des départements plus tard, les dépôts de mendicité, où on va les rééduquer par le travail. Parce que cette idée, ce qu'on leur reproche le plus aux vagabonds dans l'histoire et jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas de travail. Or, le travail est la valeur centrale de la société.
Alors, dans le département de l'Ardèche, Bouvier-Galabru va entrer dans la ligne de mire d'un juge de Privas qui s'appelle Rousseau, c'est Philippe Noiret, dans le film de Tavernier. C'est un personnage habité d'une passion obsessionnelle de l'ordre. Lui aussi, d'ailleurs, il est célibataire. Il vit avec sa mère, à qui il dicte des articles vengeurs pour la presse bien-pensante.
On punit les ouvriers en grève, on ne punit pas assez les vagabonds.
Il faut des lois plus répressives, des peines de prison beaucoup plus importantes contre les cheminots.
Attends.
Des peines de prison beaucoup plus importantes contre les cheminots. Ces parasites qui ne songent qu'à deux choses, satisfaire leur faim et leur plaisir sexuel. Cette année, j'ai dénombré 18 067 délits commis par ces associés.
Bon, ben dis donc, ça devient une affaire politique.
Maman, je te l'ai dit 100 fois, je ne fais pas de politique.
Oui, dans les années 1890, où se situe cette affaire, beaucoup de débats ont lieu sur l'augmentation de la répression qui vont aboutir à une sorte d'équilibre, dites-vous, André Guénin, en 1911-1912, donc un siècle juste après le code pénal que vous évoquiez.
Oui, à l'époque, à la fin du 19e siècle, il y a une impression de la société, on ne sait pas trop s'il y a une montée du vagabondage ou si c'est des gens qui prennent peur et qui voient des vagabonds partout. Donc, par conséquent, on s'enquiert de possibilités de réprimer plus. C'est un peu cette réalité qui existe à l'époque.
Alors, 1911-1912, on va d'ailleurs tirer du vagabondage les tziganes et instituer pour eux, dites-vous, c'est important, le carnet anthropométrique.
Voilà, c'est la loi de 1912 qui pose justement les vagabonds, les tziganes, à l'origine, n'entraient pas dans la catégorie du vagabondage. Mais les gendarmes, la maréchaussée, les arrêtaient comme errants et finalement leur imposaient les peines des vagabonds. Et puis, quelque part, on se préoccupe de réguler cette masse qui bouge beaucoup. Et alors, le sentiment de la population française, c'est qu'ils sont extrêmement nombreux. On pense qu'ils sont une cinquantaine de milliers de personnes à l'époque, mais comme ils bougent, ils sont là, ici et là, tout le temps, on pense qu'ils sont plus nombreux. Donc, on va inventer ce carnet anthropométrique pour, en quelque sorte, les ficher et pour pouvoir les repérer mieux.
Mais revenons aux vagabonds. Le juge Rousseau, Philippe Noiret, il a raison de se méfier de Bouvier, Michel Galabru, parce qu'en fait, ce Bouvier, c'est une adaptation d'un personnage réel qui a été guillotiné à la fin du 19e.
Voilà. Ce Bouvier, c'est Joseph Vacher. Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, je pense fondamentalement que les vagabonds, les errants, sont des gens ordinaires qui tombent dans leur misère. Mais parmi eux, comme dans les gens ordinaires, malheureusement, il y a toujours des monstres. Et par conséquent, l'un d'entre eux, l'un des vagabonds fin 19e, qui s'appelle Joseph Vacher, va commettre différents viols et crimes de bergers et de bergères. Et à ce moment-là, toute la France a peur. Vous savez, on se souvient tous de quelques événements. Luc Tavernier, il y a quelques années, où le journaliste de la télévision annonçait « La France a peur ». Donc, toute la France a peur, et on va penser, par une généralisation, que tous les vagabonds sont des vicieux.
Alors, ce Joseph Vacher, il intéresse particulièrement l'historien, parce qu'il a laissé des carnets, l'historien de la pauvreté, qui disait « J'ai démuni, faute de traces ».
Voilà. Alors, Joseph Vacher, effectivement, on peut dire que ce n'est pas un vagabond typique, parce que le vagabond typique du 19e, il ne sait pas lire ni écrire. Or, Joseph Vacher était issu d'une famille nombreuse, de, on dirait peut-être petite classe moyenne aujourd'hui, on ne le disait pas à l'époque, mais en tout cas pas la bourgeoisie, classe populaire supérieure, et il fait des études dans des établissements religieux. Jusqu'à 18 ans, il reçoit une certaine formation, et ce qui fait qu'il sait lire et écrire. Et puis, il est indiscipliné, on l'en sort, et à ce moment-là, il rentre directement sur la route. Il rentre directement sur la route et à ce moment-là, il écrit aussi.
Un autre trimardeur de meilleur aloi qui écrit, c'est Jean Rictus, que vous nous permettez de redécouvrir. Il a même écrit son journal qui repose quelque part dans une bibliothèque et qui ne demande qu'un éditeur. Il y a beaucoup de volumes. Les Soliloques du pauvre, dont voici un extrait, publié en 1897, c'est beaucoup plus court, enregistré par Pierre Brasseur, la méditation d'un vagabond. On est à l'approche de Noël et il se regarde dans la vitrine, dans le miroitant d'un marchand de vin et il croit que son reflet, c'est la face du Christ.
Ah, mes souvenirs, ah, mon enfance, ah, mes prières, ah, mes croyances. Mais il n'y a donc plus rien dans le ciel. Sûr qu'il n'y a plus rien. Quelle infortune. Je suis même pas sûr qu'il y ait encore la lune. Sûr qu'il n'y a plus rien, même que peut-être il n'y a jamais, jamais rien eu. Mais à présent, quoi que tu vas foutre? Faire des bagots ou ben encore au hall décharger les primeurs? Si je te servais tes paraboles. Heureux les simples, heureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux. C'est avec ça qu'on nous empaume, qu'on se cale des briques et des moellons. Bah tu sais, je m'en fous de ton royaume. J'aimerais bien mieux des pantalons, une soupe, une niche et de l'amitié. Car quoi que t'aies bien fait ton métier, toi, ton grand cœur et ta pitié n'empêchent pas d'avoir froid aux pieds.
Formidable texte que vous citez longuement, André Guélin, d'un irréductible, d'un des derniers folles en Christ et qui ne doit pas se soumettre aux normes de la charité telles que les organisent les bonnes gens d'œuvre chrétiens de l'époque.
Oui, Jean Rictus, c'est un écorché vif. Couramment, on a tendance à dire et à observer que les vagabonds, que les cheminots, que les errants sont des gens assez passifs qui supportent tout ce qui se passe. Or, chez Jean Rictus, on a senti très bien dans cet extrait lu par Pierre Brasseur, le côté hérissé, presque le côté nihiliste. Donc, par conséquent, il y a cette révolte contre la situation d'une France qui est quand même encore chrétienne, où les gens ont des attitudes chrétiennes et qui, effectivement, a ses limites face aux vagabonds. Qui ne sont plus les représentants de Dieu quand il cite les béatitudes? Il a une culture, Jean Rictus. Il a une culture. Je pense qu'il est sorti d'un petit commerce où il n'a pas réussi. Hein. C'est à peu près son origine. Donc, il dit, ben oui, parce qu'au temps du Moyen-Âge, tous ces vagabonds, c'était des vagabonds du Christ. Quand je rencontrais un vagabond, c'est peut-être Christ que je rencontrais, ou au moins un intermédiaire qui pourrait me garantir. Et longtemps, on a cru cela, et les chrétiens, les pratiquants, ont cru tout à fait cela. Et puis, au milieu du fin 15e, début 16e, les vagabonds sont de plus en plus nombreux. Ils sont attirés par les villes se ferment pour se protéger d'eux, et on va les diaboliser.
C'est la comète d'une époque finissante, Jean Rictus. On va en venir à la deuxième période que nous avions indiquée, André Guélin. Au long du XXe siècle, le nombre des cheminots comme Rictus, qui se déplacent à pied dans les campagnes, diminue, et l'État-providence se constituant avec l'urbanisation, c'est maintenant dans les villes que l'essentiel pour notre sujet va se dérouler. Villes où se poursuivent les vieilles activités traditionnelles, les chiffonniers, les biffins.
Ça va faire 10 ans que je suis là. J'ai 47 ans, monsieur. J'ai personne, j'ai rien.
Je fais la biffe. Je sais ce que c'est que la biffe. Comme c'est des godasses, des prunes, des avant de manger. Voilà, c'est tout ce que je fais.
On est des clochards, on n'a pas d'abri. On vit dans les rues sans fin. On a le ventre vide, le cœur te meurtrit et l'on meurt de froid et faim. On est bercé par la chanson du vent, on n'a pas chaud mais on fait pourtant des rêves délivrants. Tant qu'il y aura des étoiles sous la voûte des cieux, il y aura dans la nuit sans voile du bonheur pour les yeux.
De l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec André Guélin, des vagabonds aux clochards. Alors vous donnez, André Guélin, une nouvelle édition chez Pluriel de votre histoire de la grande pauvreté dans la France et chez Fayard, un nouveau volume qui est intitulé « D'ailleurs et de nulle part ». Le mot « clochard » là vient d'apparaître, on l'a entendu.
Le mot « clochard » vient d'apparaître. En fait, il est apparu exactement en 1895. Quelque part, clochard, c'est clocher. Clochard, c'est donner l'idée. Enfin, je pense, parce qu'on s'est demandé l'étymologie de ce mot, pourquoi ce mot. Et mon interprétation à moi, qui vaut ce qu'elle vaut, c'est que clochard, c'est clocher. Donc, ce clochard, le vagabond, cloche parce qu'il n'est pas très solide. Il est débile. C'est pas un grand fort à bras qui se balade dans les villes et dans les campagnes. C'est quelqu'un qui est faible. Et donc, par conséquent, il cloche, il est maladroit, et par conséquent, on l'appelle clochard. Voilà net le mot clochard, qui va rester quelque part assez limité, comme tous les mots qu'on invente, et puis à un moment, il explose dans l'entre-deux-guerres. Il explose sous une autre dénomination.
Et le clochard, finalement, il va être regardé dans la France de ce qu'on appelle les Trente Glorieuses, avec une certaine bienveillance, parfois, parce que dit Maître Torrès, grand avocat de gauche de l'époque. On a quand même le droit, bon sang, d'être un peu inadapté.
Le clochard n'est pas un révolté, mais un résigné. Il n'est pas un dur, mais un faible, souvent un tendre. Il ne demanderait pas mieux que de dormir dans un lit douillet, à condition de rester libre. Nos clochards parisiens ne sont pas des oisifs systématiques. Leur trait commun n'est pas la paresse, mais leur destin d'éternels inadaptés.
J'ai rencontré Sosten, mais il a trouvé un drôle de filon. Lui.
Ah oui, qu'est-ce qu'il fait?
Après les réverbères, ils ont mis des boîtes avec une inscription papier SVP.
Oui, alors?
Eh bien, Sosten, il est chargé de ramasser les papiers dans les boîtes.
Oh, ben dis donc, c'est un drôle de boulot, ça. Moi, j'ai une idée. Si après les réverbères, je mettais un écriteau avec des boîtes, avec mégots SVP.
Vous vous souvenez, André Guélin, Radio Luxembourg, la même radio qui a lancé l'appel de l'abbé Pierre, 1954. C'était une rubrique quotidienne. Vous écoutiez ça quand vous étiez petit?
Ah, oui, oui.
Ça s'appelait « Sur le banc ».
Avec il y avait, Clément Souplex.
Voilà, dans voilà. Le rôle de la Hurlette. Et Jeanne Sourza dans ça. Le rôle de Carmen.
C'est ça.
C'est quand même assez inouï qu'une grande radio populaire donne la parole à deux clochards ou simili-clochards pour faire en feuilleton quotidiennement de la philosophie.
Oui, oui. Et là, vous me donnez une idée. Permettez-moi, monsieur Lebrun, j'y ai pas pensé quand j'ai écrit mes livres là-dessus, mais au même moment naît le terme Clodo. Clodo, le mot « haut » signifie bien quelque chose de familier et on a l'impression que les clochards, d'être diaboliques, d'être monstrueux, deviennent des êtres tolérés, des êtres acceptés. Pourquoi ? Vous l'avez dit, parce qu'on est en période de prospérité et le nombre de clochards, objectivement, diminue dans le paysage. Et on a l'impression que les clochards qui restent, ce sont des êtres un petit peu héroïques, un petit peu philosophes, qui refusent la société capitaliste telle qu'elle sourd, qui refusent ses contraintes et qui veulent la liberté. Et donc, quelque part, dès cette époque, le clochard, c'est moi-même qui n'ose pas faire le saut, mais qui est parti pour refuser cette société, pour vivre la liberté.
Alors, les gens d'œuvre et les dames d'œuvre du 19e siècle auraient difficilement accepté ce type bonhomme du clochard. Mais les nouvelles organisations caritatives, telles qu'elles s'organisent après la Deuxième Guerre mondiale, sont peut-être davantage ouvertes et bienveillantes.
Oui, incontestablement, les différentes œuvres caritatives, pour une part d'origine chrétienne, hein, quand même, mais qui vont essayer. Est-ce que c'est le personnage qui les attire? Franchement, j'en suis pas sûr. Ça là-dessus, je n'en suis pas sûr, car dans toutes les œuvres sociales, et je m'excuse auprès des personnes, des œuvres sociales que je connais bien, que j'apprécie la grandeur d'âme, l'efficacité et l'action, mais je crois qu'elles demandent quand même un vagabond, un clochard, d'être normé. C'est-à-dire que le clochard, pourquoi les clochards disent tous qu'ils sont clochards parce que leur papa était ivrogne et leur maman se conduisait mal, parce qu'ils sentent cette attente de ces œuvres, de cette science sociale, de ces dames d'œuvre qu'ils attendent. Un personnage particulier.
Alors, les assistantes sociales sont peut-être normées. Pardonnez-nous, chers auditeurs et auditrices qui exerçaient ce métier, mais dans les années 1950, il y a beaucoup plus de donateurs. Le nombre s'élargit. Il y a des bénévoles, il y a des gens des classes moyennes qui entrent dans ce type de métier dont le comportement est différent, je le répète, de celui des gens d'œuvre du 19e.
Oui, oui, leur comportement est complètement différent. Et puis, quelque part aussi, on se dit que le clochard, c'est lui qui a voulu quitter cette société pour, en quelque sorte, être philosophe. Donc, le clochard, c'est finalement un peu, peut-être moi-même aussi. C'est quelqu'un qui prend la vie avec réflexion et qui en tire le meilleur.
Les organisations caritatives sont moins confessionnelles, sont non confessionnelles. On va entendre Coluche. Coluche qui disait de l'abbé Pierre, « Oh, il n'en peut plus, l'abbé Pierre, il se crève. Ben, c'est qu'il n'y a que le bon Dieu pour l'aider. Moi, j'ai les médias et je ne suis pas prêt de leur lâcher les baskets. »
L'hiver, on ramasse les cartons, alors on a bien chaud, puis on serre les uns contre les autres. Et puis l'été, on se fait emballer par les bleus. C'est la police des clochards, alors ils nous emmènent à la campagne pour nous nettoyer.
À la page régionale, Metz, où la police a décidé que les clochards de la ville devaient être propres. Chaque semaine, on leur impose donc une grande toilette dans un centre de désinfection. Une campagne menée à la demande générale par le commissaire Henrion, directeur adjoint des polices de Moselle.
Notre solution pour le moment, c'est de les récupérer de temps en temps, de les présenter au service de la DAS, au centre de dépouillage, de leur faire prendre une douche, de passer leurs habits à la désinfection et puis de les relâcher. Alors le problème clochard n'est pas résolu, mais au moins on a des clochards propres.
Reste longtemps, mais c'est du boulot. Hein.
On va passer du clochard au SDF. Juste une éclaircie, parce que vous ouvrez beaucoup de perspectives dans votre histoire de la grande pauvreté en France sur ce qui se passe depuis les années 1980. C'est au moment précis où on va abolir dans le nouveau code pénal 94 le délit de vagabondage que des maires, M. Roche à Metz, M. Médecin à Nice et combien d'autres depuis, prennent des arrêtés anti-mendicité.
Voilà. Ça, c'est une question tout à fait importante. C'est une question tout à fait importante. Pourquoi ? Parce que, quelque part, les SDF ressurgissent. On croyait que les clochards, c'était fini, que le progrès, les Trente Glorieuses, songeait, c'était le président qui disait il y aura 5% à vie de croissance, donc la France va résorber sa misère. Elle n'y arrive pas. Au contraire, elle ressemble dans la crise. Et à ce moment-là, voilà que les SDF se multiplient. Les SDF se multiplient, puis quelque part, comme au 19e siècle avec le paupérisme, on se dit qu'ils sont tellement nombreux que ce n'est pas possible qu'ils soient fautifs eux-mêmes. Et alors, pourquoi ? Parce que le SDF, comme vous l'avez dit dans votre propos liminaire, le SDF, ce sera peut-être moi. Mais en même temps, donc, certaines compassions, mais en même temps, donc, on va supprimer le délit de culpe de vagabondage qui est apparu en 1910, code pénal 94, certes. Mais en même temps, il nous dégoûte. Il faut bien être honnête. Il nous dégoûte. Et alors, à ce moment-là, voilà naître les fameux arrêtés anti-mendicité qui vont avoir pour but de débarrasser les centres des villes, empêcher les commerçants de travailler, pense-t-on. Et à ce moment-là, se développe cet arrêté anti-mendicité. Un seul exemple, rapidement, deux secondes. Le maire de Nice, également, transporte ses clochards à 30 km parce qu'on a assez de les voir sans se préoccuper de savoir s'ils vont parvenir le lendemain, ce qu'ils font évidemment.
La grande pauvreté, enjeu politique local, enjeu politique national, parce qu'à la différence de ce qui se passait à l'époque des clochards, on ne peut plus considérer le SDF comme un autre. Nous-mêmes, on pourrait le devenir, pense beaucoup de Français. Merci à vous, André Guélin. Vos livres chez Pluriel et aux éditions Fayard. L'émission était réalisée par Jacques Sigal, préparée par Virginie Leduo, avec à la technique Basile Bocquer et Jonathan Gauthierot.